Docteur Philo. L'heure philo sera spinoziste ce soir en compagnie du clan que nous formons, Henri-Marc Mutel, Chantal Lemontagnier, Djoubaka et Pierre-Yves Derolin, notre invité. Maxime Rovert, écrivain et historien de la philosophie, enseignant dans de prestigieuses universités et auteur de différents ouvrages, au nombre desquels une traduction de l'éthique de Spinoza et du clan Spinoza. Nous sommes à Amsterdam en 1677 et c'est l'invention de la liberté, rien de moins.
France Inter. L'heure philo. Patricia Martin.
Maxime Rovert, bonsoir.
Bonsoir Patricia.
Spinoza donc, philosophe du XVIIe siècle, d'origine portugaise, né aux Pays-Bas, auteur de l'éthique, tout le monde en parle mais très peu de gens l'ont lu. Spinoza dépeint comme exclu, hautain, incompris et solitaire, surnommé le prince des athées, un être abstrait et éthéré, impossible à lire. Et vous, vous dites que c'est faux, vous l'aimez. Vous avez même eu tendance à l'idolâtrer, en portant l'éthique sous le bras dans des lieux improbables, jusqu'au moment où vous avez établi avec lui un rapport plus, on va dire, plus serein. Qu'est-ce qui vous a rendu si accro à Spinoza ?
Ah, en général, on tombe amoureux de Spinoza par le texte et on rencontre le texte par des gens. Donc j'ai eu la chance d'avoir 3 professeurs de philosophie successifs qui étaient des spinozistes patentés. Le premier c'était André Pessel, le second c'était Bernard Potras et le troisième Pierre-François Moreau. Donc il y a des auteurs qu'on peut rencontrer comme ça en librairie par hasard. Vous voyez le livre, vous le prenez et vous l'emportez chez vous. L'éthique, c'est un livre tout à fait différent puisqu'il a été conçu par un groupe pour ce groupe et pour travailler ensemble. Donc il n'est pas anormal qu'on ait besoin de passeurs ou de passeuses qui sont des profs de philo mais qui peuvent être vos amis, qui peuvent être de votre famille et qui un jour vont vous mettre l'éthique entre les mains en vous disant « lis ça, ça va changer ta vie ».
Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase qu'on attribue à Hegel ? Je ne suis pas sûre qu'il l'ait dite, mais enfin bon, on la lui attribue. Pour être philosophe, il faut commencer par être spinoziste.
Oui, tout à fait. C'est un extrait des cours d'histoire de la philosophie de Hegel. Hegel arrive à une époque où l'Allemagne vient de redécouvrir l'importance de la pensée de Spinoza. Il y a eu une grande querelle autour de la notion de panthéisme, autour de Herder, de Jacobi et d'autres penseurs allemands. Et donc, pour Hegel, l'importance de Spinoza est évidente pour une raison simple, c'est qu'il a vu comment s'articuler les choses et Dieu dans une pensée tout à fait nouvelle. Alors, Hegel est très enthousiaste de Spinoza parce qu'il y reconnaît une forme d'intellectualisme qui se limite pas, en fait, à ce que nous pouvons penser comme ça rapidement en articulant 2 ou 3 concepts, mais qui a une ampleur de vue qui est tout à fait fascinante. Voilà pourquoi on commence avec Spinoza comme l'univers commence avec Dieu, quoi, d'une certaine manière.
Mais il n'y a pas de tiédeur, en tout cas. On aime ou on déteste.
Je crois pas qu'on déteste. Je connais pas aujourd'hui de personnes qui soient vraiment des ennemis de Spinoza. En revanche, c'est vrai qu'au XVIIe siècle, il a soulevé une énorme vague de scandales, de protestations, parce que en fait, il remettait en cause la nécessité de dogmes dans la religion. Donc évidemment,
ça a fait grincer quelques dents.
Voilà. Mais aujourd'hui, je dirais que même dans les traditions religieuses, on trouve des jésuites qui étudient Spinoza. On trouve dans toutes les traditions, encore une fois.
Il paraît qu'il y a même un exemplaire de l'éthique au Vatican, c'est vrai ça ?
Ah oui, c'est tout à fait vrai. C'est même un ami de Spinoza qui l'y a laissé, à vrai dire, pour le dénoncer comme dangereux. Mais c'est un peu l'ironie de l'histoire qui fait que ce sont généralement les choses qu'on veut voir disparaître, dont on garde un exemplaire qui va ensuite germer.
Il est votre aîné, Robert Misrahi, spécialiste lui aussi de Spinoza.
Spinoza est l'un des premiers philosophes de ce qu'on peut appeler les temps modernes. C'est l'un des premiers philosophes qui souhaite intégrer une réflexion sur l'individu et intégrer l'individu à son contexte, c'est-à-dire aussi bien à la nature qu'à la société. Et alors, dans cette direction, à savoir que si l'on dit que Spinoza nous accompagne, nous, philosophes, cela veut également dire une autre chose. Il nous donne non seulement l'inspiration concrète de la joie, mais il nous permet aussi d'aller au-delà de lui-même, au-delà de Spinoza, grâce à Spinoza. Parce que lorsque l'on pratique longtemps Spinoza, on s'aperçoit qu'il a su à la fois exprimer son temps dans ce que ce temps avait de plus vif et de plus audacieux, mais en même temps, Spinoza a été au-delà de son temps. Et c'est cela l'un des enseignements les plus importants, je crois, dans la lecture et la pratique de Spinoza. C'est que tout en lisant Spinoza, on est incité à dépasser Spinoza. Et c'est d'autant plus une inspiration essentielle, cela que je viens de dire, cette ouverture sur l'avenir de la philosophie, que aujourd'hui, l'esprit de notre temps, c'est plutôt l'esprit tragique. Et si l'on se réfère à Spinoza, au contraire, on a comme l'espèce d'incitation et d'appel à dépasser notre temps tragique vers un temps qu'il y aurait à inventer, exactement comme Spinoza, dans son temps, a tenté d'inventer quelque chose de plus que ce que lui offrait le XVIIe siècle.
Vous avez dépassé Spinoza, Maxime Revert?
Ah, je sais pas, moi j'ai plutôt l'impression de lui courir après. Quand c'est pas lui qui me court après d'ailleurs. En vérité, ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Misraïl, c'est surtout la notion de contre-temps dans lequel il place Spinoza, qui serait donc une sorte d'antidote à l'esprit tragique du nôtre. Aujourd'hui, il me semble que les temps ont changé, ces toutes dernières années, et que notamment la pensée écologique, qui est maintenant une urgence, trouve dans Spinoza une source d'inspiration absolument fondamentale, justement autour du concept que Robert Misraïl mettait en avant à l'instant, qui est celui d'individu. Mmh. C'est-à-dire que on se reproche toujours d'être une société individualiste, et c'est vrai, mais avec Spinoza, on peut penser des individus emboîtés. Et justement, la notion d'individu, pour lui, elle va s'étendre à l'ensemble de la nature. C'est l'ensemble de l'univers qui est un seul et même individu. Et donc, à l'intérieur de lui, il faut apprendre, en fait, à naviguer, à se déplacer, de manière à ce que nous-mêmes, nous nous épanouissions, à la fois comme individu et comme partie d'un tout plus grand que nous.
Qu'est-ce que vous avez ressenti en traduisant l'éthique? Et d'ailleurs, pourquoi avez-vous voulu le traduire à nouveau? Parce que ça avait déjà été fait.
Oui, c'est drôle. On pense toujours qu'un texte ancien comme ça, qui a été traduit à plusieurs reprises
en
français, écrit en latin, n'a plus besoin de traduction. Mais en réalité, d'une part, la langue évolue. C'est-à-dire que la langue que nous parlons aujourd'hui, en 2022, n'est pas exactement celle que traduisait Guérino dans les années du siècle passé, ou Apune, qui est un autre traducteur. Donc, l'idée, c'était de fournir une traduction d'un français actualisé. Ensuite, de rompre avec une tradition française qui mettait Spinoza toujours en lien avec Descartes et avec le Descartes des passions de l'âme, parce que Descartes a écrit un texte qui a beaucoup inspiré Spinoza, mais sauf que Descartes l'a écrit dans un français du XVIIe siècle, ensuite traduit en latin. Spinoza étudie cette affaire-là en latin et utilise les mots latins. Je vous donne un exemple, titillatio, c'est un mot qui veut dire plaisir. Mais en réalité, on a l'habitude, jusqu'à l'édition que j'ai faite, de le traduire par chatouillement. Pourquoi ? Parce que c'est le mot qu'emploie Descartes à l'époque. Le chatouillement, pour lui, ça désigne quelque chose de très précis, c'est-à-dire cette vibration que ressent le corps au moment du plaisir.
Donc, regardez ce que fait un bébé quand on chatouille.
Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, chatouillement, les chatouilles, c'est quelque chose de précis, ça n'a rien à voir avec le plaisir.
Donc, vous voyez, un film d'ailleurs.
Exactement. Donc, on a vraiment besoin de réactualiser les traductions lorsque l'évolution de la langue est telle, et de la recherche aussi, parce qu'on redécouvre que finalement Descartes n'était pas la seule source de Spinoza. Et bien, du coup, il est nécessaire de faire une traduction qui soit à la fois plus proche des lecteurs d'aujourd'hui et de leur langue, et aussi plus fidèle, non pas à ce qu'on se représentait il y a même 50 ans de ce qu'était le XVIIe siècle, mais à ce que nous savons aujourd'hui.
Spinoza a, donc tout ça je l'ai appris en préparant cette émission, a mis une quinzaine d'années à écrire l'éthique, et il l'a fait un peu comme un traité de géométrie. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Alors, d'abord, il ne l'a pas écrit tout seul, non. Il l'a écrit dans une sorte d'échange et d'aller-retour permanent avec tout un groupe.
D'où le clan Spinoza, c'est ce livre dont on va parler tout à l'heure.
Voilà, tout
c'est
à
tout
fait.
C'est tout un clan, c'est tout un groupe de personnes, de jeunes gens, de jeunes femmes autour de lui qui font progresser leur pensée commune. En
tout à
sorte.
Fait, exactement. Et eux, ils sont convaincus que ce qui fabrique de la pensée, ce n'est pas le cerveau d'une seule personne. Que la pensée, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, et auxquels nous avons tous accès par la raison, et dans lesquels, en quelque sorte, nous sommes des navigants, et où ce que nous échangeons, en fait, va fabriquer des idées. Dans ce contexte-là, donc, c'est ce qu'ils appellent l'intellect. Hein. Et lorsqu'on essaye de faire de la philosophie par l'intellect, eh bien, chacun sort un peu de sa propre singularité et peut penser des idées pures. Pour articuler
ces idées pures, c'est quoi ? C'est des idées indubitables ?
Exactement, ce sont des idées, comme Descartes a découvert le cogito, qui est une idée, voilà, je pense donc je suis, ça je ne peux pas en douter, plus j'essaye de douter, plus en fait je me rends compte que j'existe. Mmh. Hein. Et bien de la même manière, eux, ils ont voulu être très rigoureux dans les déductions, et c'est pour ça que plusieurs d'entre eux, pas seulement Spinoza, hein, ont écrit des choses, des traités à la manière de la géométrie d'Euclide. Donc ça commence par des définitions des termes, ensuite il y a des axiomes sur lesquels on doit se mettre d'accord, et puis ensuite ça commence à s'enchaîner, il y a des propositions qui vont être démontrées de manière très rigoureuse en utilisant ce qui précède, et ainsi de suite.
Mais qu'est-ce que ça raconte, l'éthique ?
Alors, en fait, c'est une sorte de grand panorama qui serait en quelque sorte vertical. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut vous représenter un paysage où vous auriez, je ne sais pas, des collines, des arbres et des nuages au fond, etc. Bien, maintenant que vous avez cette représentation en tête, renversez l'image et imaginez qu'on parte de tout en haut. Eh bien, tout en haut, c'est ce que Spinoza appelle la substance, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est éternel, infini, etc., et dont il va démontrer que ça mérite le nom qu'on lui donne d'habitude et qu'on appelle Dieu. Sauf que, au lieu de considérer qu'il est comme le soleil très lointain et qui fait ses effets en quelque sorte à distance, Spinoza va montrer que les choses, le reste du paysage en quelque sorte, sont à l'intérieur de cette chose-là et qu'elles dérivent en réalité les unes des autres. Et de là, vous arrivez à l'être humain. Et dans l'être humain, le paysage continue et vous allez maintenant scruter les affects, ce qu'il appelle les affects, c'est-à-dire les émotions qui nous traversent. Et vous allez vous rendre compte que c'est la même chose, c'est-à-dire que les émotions ne sont pas des états qu'un être substantiel traverse, elles ont autant d'importance, autant de charge d'existence, charge ontologique, que nous-mêmes. C'est-à-dire que l'amour, ça existe aussi vrai, aussi pur et dur qu'il existe une Patricia Martin ou un Maxime Romvert. Ouais. Donc, vous voyez que le paysage de Spinoza, c'est un paysage où on voit des choses que d'habitude on ne voit pas dans le paysage. On regarde à l'intérieur de nous-mêmes et on suit, on considère comme réel ce qui a jusqu'alors été considéré comme des passions, des caprices, des idées folles, etc.
Donc, alors moi j'ai suivi, Maxime Romvert, j'ai suivi votre conseil, parce que vous dites que si ça paraît trop ardu, trop difficile de commencer par le début, il faut aller tout de suite à la troisième partie, justement l'origine et la nature des affects. Et je dois dire que ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'en fait, on devient assez vite accro. Je ne dis pas qu'on peut le faire 2 heures de suite, hein, mais un petit peu chaque jour ou 2-3 fois par semaine. Je trouve ça formidable parce que ça nourrit l'esprit et ça oblige peut-être à penser, peut-être moins vite, mais différemment. C'est-à-dire, et là aussi, c'est ce que vous dites au début du livre, hein, dans votre présentation, c'est que ça oblige à ralentir l'enchaînement de nos pensées.
Tout à fait. En fait, on a l'habitude de dire, oh, attention, l'éthique de Spinoza, c'est un livre très difficile. Non, c'est pas un livre très difficile. C'est un livre juste différent.
Et cette différence. Qui aide à vivre.
Et qui va vraiment changer la vie. Mais pour que ça change la vie, il faut d'abord accepter de décélérer un petit peu. C'est-à-dire que, oui, c'est pas un livre que vous allez attraper, vous allez le dévorer comme un roman, et en 2 jours, vous l'aurez terminé, il aura changé votre vie. Non, déjà, ça fonctionne jamais
d'abord,
comme ça.
D'abord, on change pas la vie en 2 jours.
Voilà.
Il faut toute une vie pour changer la vie.
Et donc, pour que ce livre, il fasse vraiment son effet, il va falloir accepter que vous allez lire des trucs, là, vous allez pas tout comprendre d'un coup. Mais si, surtout, si vous commencez par la troisième partie, qui est celle qui parle de l'amour, de la haine, de la colère,
oui,
etc.
Oui, de ce qu'on peut le mieux appréhender, finalement.
Absolument. Vous allez reconnaître quelque chose de votre expérience, et vous allez petit à petit vous apercevoir que vous comprenez quand même un petit peu, et peu à peu, vous allez vous sentir happé. Mais il ne faut pas avoir peur, en fait, d'aborder un livre, qui n'est pas fait pour des tout-petits. C'est un livre pour les adultes, pour des gens qui ont décidé de prendre un petit peu de temps pour réfléchir et qui vont lire un livre, enfin, qui vont rencontrer un texte, en fait, qui va être une sorte de compagnon de voyage.
Maxime Romvert est l'invité de L'Heure Philo, ce soir, donc, jusqu'à 21h. Curtis Harding, il sera en concert à la Cigale à Paris le 6 mars prochain. En tout cas, on l'espère. Forevermore.
My cool with you. I've been playing the fool. It's true. There has to be some rules between us two. Can't keep my cool. She's wearing a different suit today. Dressed up for the games we play. See the words around town. I can't put you down. Can't keep my cool.
Martin.
Maxime Robert, je voudrais qu'on en vienne à cet autre livre, Le Clan Spinoza, que vous avez écrit, qui n'est pas un roman, qui n'est pas non plus un essai, mais disons que l'écriture est quand même beaucoup plus romanesque qu'universitaire, ou je me trompe?
Oui, clairement. En fait, c'est une sorte de roman sans fiction. C'est-à-dire que c'est un roman historien, pas historique. C'est-à-dire que tout ce que vous lisez dedans est vrai.
Donc vous avez voulu approcher la vérité de Spinoza par ce
Complètement. C'était le propos. Et c'est pour ça qu'en fait, recourir au romanesque, c'était pas du tout pour gagner un plus grand public ou pour être plus vivant. Alors peut-être plus vivant si, parce que c'est très vivant, mais je voulais vraiment capter quelle vie donne naissance à la philosophie. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient très nombreux et nombreuses à intervenir dans cette histoire-là, et que pour décrire leurs interactions, il n'y avait pas d'autre moyen. Si j'avais fait un livre écrit à la manière universitaire, il aurait fait 2000 pages. Donc là, déjà, il est pas complètement petit, mais en tout cas, il a cet aspect prenant qui est le propre des romans.
Et on se rend compte que ce Spinoza qu'on a décrit comme quelqu'un d'incroyablement solitaire était en fait très entouré et qu'il y avait une interaction formidable entre les autres et lui.
Oui, alors ce qui est très beau, c'est que, bien sûr, l'histoire de la philosophie qui nous a amené un Spinoza complètement isolé, en fait, elle a été faite par des gens qui n'avaient pas accès aux textes qui aujourd'hui sont désormais accessibles et qui reconstituent un groupe d'amis parmi lesquels il y a vraiment des gens extraordinaires. Et donc, parmi eux, il y a par exemple son maître de latin qui s'appelle Franciscus van den Enden et qui va finir révolutionnaire, montant un complot contre Louis XIV, qui a une personne merveilleuse, qui a éduqué ses filles, qui vont du coup l'aider dans son entreprise, et qui vont épouser un des amis de Spinoza. L'une d'elles aurait même eu une histoire avec le philosophe.
Oui, alors pourquoi? C'est la fameuse, c'est quoi, Clara Maria?
Clara Maria, voilà.
Alors Clara Maria, elle avait bien 10 ans de moins que lui, hein, c'est ça? Elle était plus jeune.
Oui, 8. En fait,
8 c'est ce qui... parce qu'elle avait triché sur son âge. Vraiment.
C'est ça. À l'époque, quand une femme se marie plus tard que d'habitude, elle a tendance à mentir sur son âge, parce que
à l'époque, vous pensez?
Parce que c'était facile, en fait, les registres étaient tenus un peu à la main.
C'est vrai qu'avec une carte d'identité, c'est plus difficile.
Voilà. Donc, ça a fait tromper, en fait, toute une partie des historiens qui ont cru sur parole ce qui était déclaré à l'acte de mariage et qui ne sont pas allés regarder sur l'acte de baptême. Bref, quoi qu'il en soit, elle a 16 ans, Spinoza a 24 ans, sauf que c'est elle la prof. C'est elle qui enseigne le latin aux élèves de l'école de son père. Donc, on peut imaginer entre eux, c'est pas qu'on l'imagine, on a des sources qui nous racontent une histoire entre eux, et ce sont plutôt les historiens ultérieurs qui ont eu une fâcheuse tendance à discréditer cette source en considérant que, entre une jeune femme de 16 ans qui donne des cours de latin et un jeune juif de 24 ans qui prend des cours de latin, il ne peut pas y avoir d'amour.
Bon, en tout cas,
Il y en a peut-être eu. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut difficilement y avoir un mariage. Pourquoi ? Précisément parce que l'Inquisition continue de battre son plein en Espagne et au Portugal, et que pour un, même si Spinoza né dans une famille juive, a complètement renoncé au judaïsme, s'il a été banni par la communauté,
mais ça serait pas converti.
Etc., se convertir précisément au catholicisme, qui est la religion qui, quand même, massacre des gens dans la péninsule ibérique, ça aurait été quand même trop fort de café. Mais quoi qu'il en soit, on a autour de Spinoza tout un monde d'amis où il y a des médecins, des anatomistes, des mathématiciens, des métaphysiciens, des gens qui s'intéressent à la religion,
etc. Ça fait envie, hein, vraiment, ça fait envie.
C'est merveilleux parce qu'en fait, ils échangent leurs découvertes, ils se stimulent les uns les autres.
C'est des partenaires plus que des disciples, parce qu'on peut aussi imaginer Spinoza en chef de file, mais c'est pas vraiment ça.
C'est pas vraiment ça, parce qu'en réalité, autour de lui, il y a des gens plus spectaculaires. Il y a par exemple Ludwig Meyer, qui est l'un des grands poètes, grand dramaturge de son époque, et donc qui est aussi connu comme un comique, c'est-à-dire qu'il il a tout le panache qu'on peut imaginer de l'homme de lettres. À côté, Spinoza, c'est l'intelligence tranquille, donc on le respecte, mais il n'est pas nécessairement le plus brillant du groupe. Mmh. En revanche, ce qui est sûr, c'est que petit à petit, ils vont mettre en place une dynamique de réflexion où les uns et les autres vont souvent s'appuyer sur celui qu'ils considèrent comme quand même le meilleur métaphysicien, et ça, c'est Spinoza.
Mais alors, comment est-ce que ça se passe? Il y a une lecture à haute voix de certains textes, enfin peu à peu, au fil du temps.
Exactement, à ceci près que Spinoza, lui, est parti d'Amsterdam à un moment donné, et du coup, il envoie à ce groupe ses propres textes, les brouillons de l'éthique. Eux, ils le reçoivent.
Premier jet, déjà.
Exactement. Ouais. Ils reçoivent ce premier jet, ils se le lisent à haute voix, et ce qui est curieux, c'est un témoignage qu'on a de l'un d'eux, qui s'appelle Simon de Vries, ils font eux-mêmes les démonstrations. Ça veut dire ils lisent le texte, mais pas tout. Il y a une partie qu'ils font eux-mêmes, et ensuite ils envoient des suggestions à l'auteur principal, donc, qui va arbitrer, qui va intégrer des choses. Et dans la même lettre, qui est la lettre 8, publiée dans la correspondance, Simon de Vries remercie Spinoza chaleureusement en disant « Si je peux encore t'être utile, n'hésite pas ». Donc on voit que c'est vraiment un livre écrit à plusieurs mains, on ne sait pas combien de mains. En fait, ce n'est pas très important de redistribuer les cartes. Ce qui est important, c'est de comprendre que ça n'est pas le fruit d'un intellectuel de génie, c'est le fruit de plusieurs intellectuels dont le génie a été de mettre en commun leur intelligence et de pratiquer cette lecture et ce travail collectif.
Et c'est pour ça qu'au départ, en tout cas, Spinoza n'a pas voulu que son nom figure sur la couverture des livres.
Oui, c'est pour ça, bien sûr, entre autres, mais parce qu'on peut aussi l'interpréter comme une réserve, morale, pour estimant que le souci de la gloire était quelque chose qu'un philosophe ne devait pas chercher, ça c'est explicite chez Spinoza, mais on peut aussi imaginer qu'il estimait qu'il n'était pas le seul auteur à devoir revendiquer ce livre, et là aussi c'est une idée quand même antique, même Sénèque, qui cite sans cesse Épicure, alors que lui il n'est pas de l'école d'Épicure, dit souvent, je le cite parce que si c'est vrai, ça n'appartient à personne. Et Spinoza a la même conviction, c'est-à-dire si c'est vrai, c'est pas mon livre. Alors ça n'importe pas qui l'a écrit.
Pierre-François Moreau, philosophe, historien de la philosophie, il me semble, Maxime Robert, que vous le connaissez.
Bien sûr, très bien, c'était mon directeur de thèse et c'est devenu un grand ami.
Toute l'histoire de la philosophie est entièrement tissée, tramée, de relations d'amitié, soit entre deux personnes, soit entre un cercle tout entier groupé autour d'un philosophe. Il y a au XVIIe siècle le cercle Spinoza. Par exemple, parmi ses correspondants, il y a un théologien amateur, un philosophe amateur qui s'appelle Guillaume de Blyenberg, qui lui écrit une première lettre, et Spinoza lui répond en lui disant « Je suis très content d'entrer dans des rapports avec vous, car il n'y a rien de plus précieux entre les hommes que l'amitié, étant donné que l'amitié sert à progresser dans la raison et vers la vérité. » Pour lui, l'amitié s'étend en droit à tous les hommes qui peuvent être raisonnables, donc elle n'est pas réservée à une ou deux personnes, et d'autre part, elle ne s'appuie justement pas sur les côtés irrationnels de l'homme, sur le côté passionnel, elle s'appuie sur l'attente de la vérité, la recherche de l'accord fondé sur la raison, autrement dit, elle fait la même chose que les mathématiques. Avec quelqu'un d'autre, on peut peut-être trouver le vrai plus vite ou s'aider mutuellement, c'est-à-dire que cette idée d'amitié, à ce moment-là, fait référence à un autre terreau qui est tout aussi essentiel à la pensée de Spinoza, qui est la catégorie de l'expérience. C'est une raison, c'est une approche de la raison qui s'enracine dans les relations expérientielles entre les hommes, mais pas du tout dans des relations de type purement sentimental ou de type purement passionnel.
Avec quelqu'un d'autre, on va plus vite. Alors, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais après tout, pourquoi ne pas lire l'éthique à plusieurs? Pourquoi ne pas se faire des soirées éthiques?
Ah, mais ça existe partout dans le monde, justement, les gens le font. C'est comme ça que ça se passe le mieux. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait une édition aussi abondamment annotée. C'est que pour ceux qui ne le font pas, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas un entourage forcément d'amateurs de philosophie, etc. Nous, on s'est rassemblés.
Vous avez mis 6 personnes, je crois.
C'est ça, on est 6 à commenter le texte de Spinoza pour reproduire, en fait, de manière écrite, dans le texte imprimé, l'effet que ça fait d'être en groupe d'amis. Et donc, nous, on est autour de chaque lecteur, de chaque lectrice, comme ça, sur la page de gauche. Si ça vous ennuie de lire nos notes, vous pouvez naviguer dans Spinoza tout seul.
Parce qu'elles sont, enfin moi j'en ai lu un certain nombre, elles sont tout à fait éclairantes aussi.
Voilà, donc voilà, l'idée c'était d'accompagner à la fois ceux qui débutent pour leur dire, attention, n'ayez pas peur, voilà où on en est, voilà à quoi il fait référence, voilà quelle est l'expérience qui justifie telle ou telle remarque, et puis en même temps voilà, apporter peut-être de l'érudition même à ceux qui font des études, voilà.
Mais on peut recommander à ceux qui nous écoutent faites-vous des soirées Spinoza,
exactement.
Alors, j'aimerais bien, Maxime Robert, que vous nous apportiez quelques éclaircissements, parce que c'est quand même très intéressant, sur l'homme. Vous le disiez tout à l'heure, il est né dans une famille de juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Il est né à Amsterdam, c'est ça ?
Oui, lui-même, il se revendique, il se sent, il s'identifie comme un homme d'Amsterdam. Mmh. Parce qu'Amsterdam, à l'époque, c'est vraiment l'une des premières capitales multiculturelles du monde. Donc c'est un port très important, ouvert sur le Nouveau Monde. Il y a beaucoup de bateaux qui partent faire du commerce avec les Antilles, avec l'Amérique du Sud ou du Nord, mais aussi par la compagnie des Indes orientales jusqu'au Japon, en Chine, etc. Donc vous avez là...
Ville ouverte, c'est pas Rome ville ouverte, c'est Amsterdam.
C'est Amsterdam ville ouverte, exactement, avec des communautés qui vivent dedans. Donc les Juifs, ils sont les bienvenus, et donc il est possible d'y vivre comme on veut.
Il y avait des Portugais, des Espagnols aussi.
Des Portugais, des Espagnols, des Polonais aussi, ouais. Donc toutes sortes. Mais il y a aussi d'autres communautés, il y a des Huguenots qui viennent de France, d'où ils ont été chassés, il y a des Anglais, des Quakers qui viennent et qui s'installent là. Bref, il y a tout un tas de gens qui, comme vous l'entendez, se définissent d'abord par leur religion. C'est quand même ça qui divise les gens à l'époque, les familles. Et il y a aussi, on en parle peu, mais ça me vient là comme une chose importante, il y a des gens qui ne mettent pas les pieds dans aucune église. Et qui parfois vivent maritalement et ont des enfants sans s'être mariés. Et ça, je veux dire, c'est assez important pour que les religieux s'en plaignent. Alors, c'est de cette ville-là où on parle plusieurs langues, tout le monde parle plusieurs langues dans la même journée.
Chez Spinoza, même, on parlait quoi ? On parlait le français ?
Alors lui, il parlait avec ses parents...
L'espagnol, le portugais ?
Voilà, quelque chose qui se trouve à cheval entre le portugais et l'espagnol. Son père avait vécu 20 ans en France, donc il parlait français.
Son père était commerçant.
Absolument. Il faisait de l'import-export avec le Portugal, mais peut-être en passant par Nantes aussi. Mmh. Et donc, faut imaginer un Spinoza qui grandit pas seulement comme ce qu'on peut se représenter comme un juif portugais avec, je sais pas, des rites très spécifiques et tout, mais en plus de cet aspect-là, ouvert sur une société néerlandaise assez accueillante, dans un milieu justement de commerçants où on a l'habitude des échanges et où Spinoza va trouver ses premiers amis qui sont justement des chrétiens qui n'ont pas d'église. Donc ils se revendiquent quand même des évangiles, c'est un livre qu'ils aiment lire, qu'ils aiment commenter, mais en revanche ils rejettent toutes les églises.
Et puis il a été à un moment donné banni de la communauté juive d'Amsterdam. Je voudrais qu'on écoute un extrait, l'extrait d'une pièce de théâtre qui a été diffusée sur France Culture, signée David Heiss, dans laquelle il a imaginé la journée du 27 juillet 1656 où Spinoza est convoqué devant les sages de sa synagogue.
Monsieur Spinoza, connaissez-vous le terme hébreu pour excommunication ?
Hérem.
Savez-vous ce qu'il entraîne ?
Potentiellement, il peut signifier l'isolement total et irrévocable de la communauté juive.
Diriez-vous que vous êtes un membre estimé de cette synagogue ?
Je ne sais pas comment répondre à ça.
Votre participation financière n'est plus ce qu'elle était.
Les affaires étant ce qu'elles sont.
Les affaires sont florissantes à Amsterdam, monsieur Spinoza. Voulez-vous être responsable de la répression de toute la population juive de cette ville ? Voulez-vous porter ça sur vos épaules ?
Non, monsieur.
Alors au nom de Dieu, que faites-vous assis dans les tavernes à lancer des blasphèmes à qui veut les entendre ? Pourquoi répondez-vous des idées qui peuvent ébranler votre communauté, ainsi que les fondations profondes de notre société ?
Je suis un citoyen loyal. Je n'ai jamais eu d'autre objectif que l'honneur et le bien de cet État.
Est-ce une rose, là, sur votre chevalière ?
Oui. une simple rose, et le mot « prudence ».
La rose est le signe des Rosicruciens, une secte illégale à Amsterdam. En êtes-vous membre ?
Non. Spinoza vient du portugais, pour épine. Donc la rose, c'est pour ma famille, la prudence, c'est pour moi.
Dur parce que Maxime Robert, Spinoza a dû quitter à ce moment-là Amsterdam après avoir été banni et que plus aucun juif, par exemple, n'ait même le droit d'entrer en contact avec lui.
Oui, alors ça paraît très dur comme ça et le texte du Rerem est lui-même assez violent. Donc ça a construit une sorte de légende noire de ce bannissement qui aurait été l'un des événements les plus violents de l'époque moderne. On y reconnaît un peu, je ne sais pas, des choses comme la condamnation du Christ ou celle de Socrate. En réalité, tout ça, c'est de la mythologie. C'est-à-dire que, d'abord, Spinoza avait envie de quitter la communauté et il fréquentait probablement plus la synagogue du tout.
Est-ce qu'il a écrit un texte expliquant son départ ?
On dit que ce texte a existé, donc on l'a perdu s'il a existé, et on ne peut rien en dire. En revanche, ce dont nous sommes sûrs, c'est que la violence du texte du Rerem...
Il faut peut-être expliquer
ce que c'est. C'est juste un bannissement. Mmh. Et en général, ces bannissements dans la communauté juive, ils peuvent avoir tout un tas de causes, et donc... Entre historiens, nous débattons pour savoir exactement quelles des multiples raisons qu'il y avait de bannir Spinoza a vraiment fonctionné. Mais il y en a une qui était strictement juridique. Il avait hérité des dettes de son père. Il avait utilisé un recours de la loi hollandaise pour ne pas les payer. Et ça, c'est susceptible de bannissement. Donc, et surtout, une fois que le bannissement est émis, il faut voir que les Juifs d'Amsterdam au XVIIe siècle sont des gens très désobéissants. Ils ont pris l'habitude de mentir, d'abord parce que c'est nécessaire à leur sécurité, mais du coup ils peuvent aussi transgresser les lois du rabbin, d'autant que les rabbins, les trois rabbins d'Amsterdam, se détestent entre eux et sont parfois eux-mêmes l'objet de bannissements, qui peuvent être donc provisoires. Et donc on va retrouver Spinoza quelques années plus tard, en train de discuter avec ses amis juifs, sans que personne ne le sache. C'est-à-dire que, encore une fois, ce que dit la loi... se retrouvent dans les textes, et les textes sont ce qu'utilisent les historiens. Donc on a un biais, en fait, quand on raconte l'histoire de Spinoza. Et ce qui a été fascinant dans le travail que j'ai effectué pour écrire le clan Spinoza, c'était justement de reconstituer le point de vue de la communauté juive pour découvrir qu'en réalité, l'affaire Spinoza s'inscrivait dans un contexte plus large de lutte entre les rabbins, et où en fait le jeune homme là qui commençait à philosopher, qui commençait à fréquenter des gens pas trop fréquentables...
Il a pas 30 ans à ce moment-là.
Exactement, il en a 24 si je ne me trompe pas. En fait, c'est pas très important pour la communauté. Des jeunes gens un peu, disons, provocateurs, il y en a plein dans la communauté. En revanche, si on comprend les choses avec une perspective plus vaste, tout s'éclaire. Donc ça, je laisse les lecteurs et les lectrices découvrir comment tout s'éclaire dans le clan Spinoza. Mais on a une nouvelle manière maintenant de raconter ce qu'a été le bannissement de Spinoza. Peut-être moins spectaculaire, moins splendide. C'est pas le héros cartésien qui est rejeté par une communauté obscure. Non, c'est plutôt un jeune philosophe qui en avait marre du commerce de son père, qui est déjà parti de la communauté juive parce qu'il s'est trouvé des amis qui sont anticléricaux et qui un jour reçoit un document qui lui dit « Vous êtes banni de la communauté juive » et qui le lui dit, c'est vrai, avec beaucoup d'énergie.
Et il quitte Amsterdam à regret ou pas ? Et d'abord, où va-t-il ?
Alors, il va d'abord à Voorburg, c'est-à-dire aux alentours de Leiden. Leiden en français, c'est la principale université du pays. Et là, d'après les sources que l'on connaît aujourd'hui, il enseigne la mathématique. Donc c'est tout à fait légitime pour un chercheur en philosophie qui a l'air de s'intéresser beaucoup à Descartes, de se rapprocher de l'université de Leiden et de se mettre peut-être dans un village tranquille qu'il a probablement choisi parce que c'est dans ce village qu'une communauté justement d'anticléricaux a fleuri. Donc il va s'installer dans le village où vivent une partie de ses amis, quitte à faire des allers-retours avec Amsterdam.
On peut visiter une maison dans laquelle il a vécu à un
Absolument,
moment donné.
Absolument.
On la visite encore aujourd'hui.
Alors après, la maison qu'on peut visiter, elle est à Rheinsburg. C'est dans un autre village où Spinoza également a vécu avant de se lasser de la vie de la campagne et de revenir à La Haye. Et là aussi, il y a une maison Spinoza qui d'ailleurs est en train de se transformer dans un institut fantastique qui va organiser plein de choses dans les années qui viennent.
Alors vous disiez qu'il avait donné des cours de mathématiques. Est-ce que ça lui a suffi financièrement? La question est triviale, mais pour vivre, parce qu'on a dit que c'était un polisseur de lentilles.
Ça aussi, ça fait partie des mythes que j'ai essayé de déconstruire dans le clan Spinoza. Alors on s'est représenté Spinoza notamment un peu pour coller à une imagerie de petits juifs artisans. Voilà. Et donc, on s'est imaginé Spinoza comme ça, qui polie ses lentilles et qui les vend, qui tient un magasin et tout. Mais pas du tout. Si Spinoza a poli des lentilles, c'est parce qu'il s'intéresse à l'optique. Et l'optique, c'est intéressant pour les philosophes du XVIIe siècle, parce qu'on invente des microscopes, on invente des télescopes, et donc on s'intéresse beaucoup à ces choses-là. Et en plus, c'est l'une des disciplines où il est possible d'articuler la mathématique, puisqu'il faut calculer les angles et tout, et le corps humain, puisque ça se répercute dans l'œil, et donc c'est tout à fait fascinant. Donc Spinoza va continuer à donner des cours, il est vrai fabriquer des instruments d'optique, en tout cas polir des lentilles, mais pas du tout comme un professionnel. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, son ami Simon de Vries meurt et prévoit de lui donner
une rente,
voilà. Donc à partir de 1667 précisément, le Spinoza que nous connaissons, c'est-à-dire celui qui va devenir un très grand philosophe, ça ne peut pas être un artisan qui, le dimanche ou pendant ses soirées, rédige des livres qui vont changer la face du monde. Non, les chercheurs en philosophie, ils ont besoin de temps, ils lisent beaucoup de livres et raturent beaucoup leurs manuscrits. Et Spinoza, c'est un très grand érudit qui, dans le traité théologico-politique, montre qu'il connaît très bien la Bible et les traditions de lecture de la Bible, et qui, dans l'éthique, montre qu'il connaît très bien la mathématique et la métaphysique, et qu'il est capable de faire un livre avec ses amis très sophistiqué. Donc, on va avoir, finalement, une sorte de rentier subventionné par ses amis. Vous voyez encore là l'importance de l'amitié et de ces réseaux comme ça d'intellectuels qui travaillent ensemble. Et donc, il va pouvoir se consacrer corps et âme à la philosophie.
Sur Spinoza, il y en a un qui est intarissable, c'est André Comte-Sponville, et il y consacre d'ailleurs plusieurs pages dans son dictionnaire philosophique.
Qu'est-ce que c'est que le spinozisme ? On cite souvent cette phrase de Spinoza, je crois que c'est dans une lettre qu'il écrit. La plupart des philosophes partent des créatures, c'est-à-dire du monde finalement. Descartes part de l'esprit, le cogito. Moi, écrit Spinoza tranquillement, moi je pars de Dieu. Alors en effet, l'éthique commence par une première partie qui s'appelle « de Dieu ». C'est-à-dire qu'il commence par cela où les autres finissent. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que le Dieu de Spinoza ? Il faut le dire bien sûr tout de suite, c'est la grande formule qu'on cite toujours. En latin, Spinoza écrit « Deus sive natura », Dieu, c'est-à-dire la nature. Autrement dit, pour Spinoza, Dieu n'est pas un être qui aurait créé la nature ou l'univers extérieur au monde. Il est la nature, il est l'univers, il est le monde. Et dire que Dieu, c'est la nature, à l'époque, ça revient à dire qu'il n'y a pas de Dieu. Et bien sûr, dire ça au XVIIe siècle, c'est se condamner à nouveau à la solitude.
Et Dieu est à toutes les pages chez Spinoza, Maxime Robert.
Oui, c'est vrai que c'est un mot qu'il utilise beaucoup, ça peut gêner les lecteurs d'aujourd'hui, mais en réalité, une fois qu'on a compris ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que c'est la nature même de l'existence.
C'est voilà. Le concept de Dieu qu'il traite, c'est ça ?
C'est ça, c'est un Dieu très philosophique. Donc, il ne faut pas s'encombrer trop avec le barbu à tête blanche, là. Non, laisse tomber ça.
Mais est-ce que ça, c'est pas très néerlandais aussi ? Les néerlandais étant finalement assez indifférents, sceptiques en tout cas quant aux dogmes, et on peut dire qu'ils le sont toujours aujourd'hui, ou je dis une grosse bêtise ?
Non, c'est vrai. Non, mais parce que les Néerlandais ont un esprit pragmatique, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir exactement où on va. Donc après, sur les principes, c'est pas quelque chose qui les intéresse très longtemps. Et donc, ce peuple qui est vraiment tourné en permanence vers l'avenir et vers l'aspect pratique, il a infusé dans la philosophie de Spinoza cet esprit aussi qui consiste à dire ce qu'est Dieu, quand on est un philosophe, on le considère simplement du point de vue du concept. Et donc, si Dieu, c'est la chose qui existe par elle-même, alors que toutes les autres existent en dépendant de Dieu, Dieu, en fait, c'est la substance des choses. Ça veut dire cette table, ce micro, la radio avec laquelle les enceintes avec lesquelles ou les écouteurs avec lesquels nos auditeurs, nos auditrices nous écoutent, ça, c'est fabriqué dans une matière qui s'appelle Dieu. Sauf que cette matière, comme vous en apercevez, elle se transforme très facilement, elle se transforme en tout. en absolument tout, puisqu'en fait, elle est infinie. Et donc, vous, moi, on est fabriqué comme ça. Vous, si vous vous coupez le doigt, vous allez voir ce qui va sortir, c'est Dieu. À partir du moment où on comprend ça, on se dit, bon, d'accord, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi? Quel type de rapport je peux entretenir avec cette réalité qui est en fait partout?
Et Dieu n'a pas de préférence, il n'a pas de morale, il n'y a pas de bien et de mal pour le Dieu de Spinoza?
Exactement.
C'est un peu ça.
Et c'est donc justement apprendre à vivre face à ce, pas face, dans ce Dieu-là. Mmh. C'est-à-dire s'installer dans une existence qui ne tient sa valeur que d'elle-même. Dans une vie qui tient sa valeur d'elle-même. Et pas par opposition à la mort, par son inscription dans l'existence de quelque chose de toujours plus grand que tout ce que vous pourrez imaginer. Et ben, en fait, ça, effectivement, d'abord, ça apaise les passions auxquelles vous êtes soumis au quotidien. Et puis surtout, ça donne une vision du monde qui va changer radicalement.
André Comte-Sponville citait Spinoza tout à l'heure dans l'archive qu'on a entendu, « Deus sive natura ». Et ça c'est une phrase de Spinoza qu'on a vue dans des manifestations en Italie notamment. Je le dis parce que vous habitez l'Italie, Maxime Revert. Dieu, c'est-à-dire la nature. Alors est-ce qu'on peut dire, et c'est des manifestations récentes, hein, contre le changement climatique. Donc est-ce qu'on peut dire que Spinoza a été écolo avant l'heure?
Ah oui, tout à fait. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il n'a pas les positions qu'on attendrait. Par exemple, sur les animaux, il considère qu'on ne peut pas établir de lien tout à fait, lucide, d'amitié ou d'affection qui soit partagé avec les animaux, parce qu'il considère que leur corps est trop différent du nôtre. Donc, c'est curieux, mais cet homme qui va alimenter la pensée écologique d'aujourd'hui, lui, par rapport aux animaux, il a raté quelque chose.
S'il a été très influencé par Descartes aussi, il n'a peut-être pas eu un bon tuteur en la matière.
Vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en réalité, pour Spinoza, le problème de la question animale, elle apparaît à partir de la question de la vivisection. Et la vivisection, elle est cruciale au XVIIe siècle parce qu'on vient de découvrir la circulation du sang. C'est l'anglais William Harvey qui découvre ça en 1637. Et donc, ça change complètement la donne parce que ça veut dire qu'il va falloir étudier la manière dont ça circule dans le corps. Et pour que ça circule dans le corps, il ne faut pas qu'il soit mort. Donc ça va donner naissance à des expériences auxquelles Spinoza et ses amis participent. Et je vais vous le dire très simplement, ça traumatise tout le monde. Évidemment, les chiens qu'on a torturés finissent par mourir, mais également une grande partie des chercheurs qui participaient à ces séances vont plus tard renoncer à la science. Certains d'entre eux vont se convertir au catholicisme, à des formes de mysticisme, etc. Et de cette manière-là, on peut comprendre que Spinoza, lui, va en quelque sorte se rigidifier, se calfeutrer dans un rationalisme un peu étroit. Pourtant, le Dieu ou la nature, ça signifie tout autre chose. Ça signifie que l'individualisme dont je parlais tout à l'heure, c'est un individualisme agrandi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix entre ce qui est bien pour moi et ce qui est bien pour la nature. Si vous comprenez ce que c'est que vivre, exister, vous comprenez que ça signifie appartenir à un système. Donc si vous abîmez ce système, il n'y a pas moyen de soutenir que non, votre intérêt passe d'abord. Non, ce n'est pas possible. Vous dépendez d'un système, si vous le détruisez, ce système va vous détruire. Mais il y a vraiment aussi un côté... c'est pas du tout un écologisme moral. Il ne vous dit pas, attention, il faut respecter la nature. Il vous dit, si vous ne respectez pas la nature, c'est elle qui vous détruira.
Et il a dit ça en 1600.
Exactement, en 1677.
Feu Chatterton sur France Inter, Cristaux liquides. Deuxième morceau de leur album, Palais d'argile. Télescopage entre un nouveau et un ancien monde.
Moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu, vieux monde adoré. Adieu, vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. un quoi, si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais. Je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il? De cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait. Ok Google, quel est-il? Celui auquel on sacrifie. Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile.
Déjà à la fin de cette émission, Maxime Robert, le temps passe très vite avec Spinoza. Est-ce que vous diriez qu'il a été dissident, subversif? Est-ce qu'il a eu peur de la censure?
Ah oui, il a été très subversif précisément parce qu'il a le goût de faire rentrer dans un vocabulaire relativement accepté des idées qui sont vraiment neuves. Donc c'est vraiment la définition de la subversion. C'est passer en dessous des mots pour faire intégrer des idées tout à fait nouvelle dans un vocabulaire reconnu. Évidemment, les théologiens, les philosophes les plus conservateurs s'y sont pas trompés et ils lui sont tombés dessus à bras raccourcis. Donc il a vraiment été en proie à une opposition très forte. Et puis, même dans les villages, il a aussi vécu quand même une sorte de menace larvée. Alors, quand il était à Amsterdam, il y a cette histoire de coup de couteau dont on ne sait pas très bien, en fait, si c'était lié
au...
C'est-à-dire, on sait que quelqu'un l'a attaqué au couteau et qu'il a toute sa vie gardé le manteau avec le trou pour se souvenir que quand même il y a des gens dangereux qui courent les rues. Voilà. On ne sait pas trop si c'était lié à une affaire commerciale, à des questions religieuses ou à des questions philosophiques. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le XVIIe siècle, c'est un environnement quand même extrêmement dangereux. Les guerres de religion battent le plein en France. Et donc, aux Pays-Bas, où la guerre d'indépendance est terminée à l'époque de Spinoza, il y a quand même une atmosphère de tolérance qui lui permet d'écrire et de publier des livres, mais dans certaines limites. Et c'est vrai que l'éthique, par exemple, il prévoit de la publier en 1675, et puis finalement il y renonce, parce qu'il sent que les théologiens commencent à s'agiter, ils ont entendu parler du projet, et il se dit, non, là, ils vont forcément tracer l'auteur, ça va revenir vers moi, et donc il va attendre pour la publication.
Et Spinoza, précurseur des Lumières ?
Précurseur des Lumières, oui, à beaucoup d'égards, peut-être pas seulement Spinoza, le clan Spinoza dans son ensemble, parce que, par exemple, parmi eux, il y a un personnage tout à fait fascinant qui s'appelle Adrian Courbar, qui a un frère aussi qui s'appelle Johannes. Et ces deux frères, Courbar, font des choses extraordinaires. Et notamment, Adrien écrit un dictionnaire qui est véritablement l'encyclopédie avant la lettre. C'est-à-dire, c'est un dictionnaire de 13 000 mots où il y a des choses comme caviar, mais aussi sodomie. Et donc, c'est un répertoire de termes qu'il commente et où il va, en quelque sorte, livrer en langue néerlandaise, ce qui signifie à un public pas forcément très érudit, c'est-à-dire qu'il ne parle pas la langue des érudits qui est le latin à l'époque, pour leur enseigner tout un tas de choses sur justement le goût du caviar, sur la nature de Dieu, etc. Donc il y a des encyclopédistes avant la lettre autour de Spinoza, et lui il va initier justement cette idée que il est possible de penser un rapport, je dirais, à l'infini, qui ne passe plus du tout par les religions. Cette idée, elle va vraiment être reprise par certains des Français, par exemple, des Lumières.
Spinoza, dont Gilles Deleuze écrivait qu'un courant d'air vous pousse dans le dos chaque fois que vous le lisez, donc Spinoza, indispensable à notre 21e siècle, Maxime Robert ?
Oui, et je dirais même pour tous et pour chacun, chacune, parce que c'est vrai que ce souffle qu'on ressent quand on est dans l'éthique, parfois c'est un peu glacial, parce que c'est difficile à lire. Mais il faut y aller parce que réellement, on a tout à gagner, à concevoir les choses autrement, à, par exemple, à prendre conscience que nos corps sont en continuité. On sort d'une pandémie, j'espère qu'on en sort. Mais en tout cas, ça nous montre bien que Spinoza, quand il parle de ce que c'est qu'un corps, il nous éclaire sur la manière dont on devrait se comporter. C'est pas à l'intérieur de la peau, le corps. Hein. Le corps, c'est du collectif, le corps. Donc, ce sont ces idées-là qui vous poussent dans le dos quand vous lisez Spinoza. Donc, si c'est un peu frais, si vous avez des frissons d'inquiétude de pas comprendre, ou voilà, des doutes sur vous-même, continuez, tenez bon, parce que c'est pas un livre facile, mais c'est un livre qui change la vie, donc ça vaut la peine.
Merci beaucoup, et moi je suis ravie parce que la mienne, je pense, va changer, j'espère celle de beaucoup d'auditeurs. Mais merci beaucoup Maxime Robert. Donc il y a cette traduction de l'éthique de Spinoza, il y a également ce livre indéterminé qui n'est ni un roman ni un essai entre les deux, mais qui se lit comme un roman, le clan Spinoza, Amsterdam 1677, l'invention de la liberté. Tout ça est paru chez Flammarion. Il y a un autre livre qui n'a rien à voir, Que faire des cons, qui est également chez Flammarion. Mais ça, est-ce que vous nous ferez l'amitié de revenir en parler un jour ?
Patricia, je reviendrai avec grand plaisir.
Merci beaucoup, à bientôt.